Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Effrayé, dégoûté. Il aimerait s'en aller en vitesse. Il va prendre le papier journal. Il va l'essuyer. Il va vomir. Le pot est plein. Voilà, c'est fait. Je le remonte son slip. Bien. Maintenant, amène-moi au lit. Après, tu iras vider le pot dans le jardin sur les poireaux. Ça leur donnera de l'engrais. Tu en as déjà mangé. Ils sont beaux, hein. Et c'est du naturel. Mathieu n'en peut plus. Il a envie de vomir. Il va coucher le vieux. Sorte de la pièce. Et il couche le vieux à côté de la vieille. Je lui demande, tu ne veux pas y aller? Pendant qu'il est là, Mathieu est horrifié. Il lui dit, tout à l'heure, je sens que ça va venir. Mathieu se sauve en vitesse de la chambre. Une fois dans sa chambre, il n'en peut plus. Il ne sait plus où il en est. Et lui non plus ne se sent pas bien. Il sent, c'est qu'il va vomir. Il a entendu la voiture du médecin qui vient de s'arrêter dans la cour. La chambre en vitesse pour aller le rouvrir. Alexis lui demande, elle va pas? Tu as l'air tout pâle. Mathieu lui dit, si ça va. Ils entrent. Le médecin leur dit, c'est très grave ce qui nous arrive. J'ai les résultats des analyses, c'est le choléra. Mathieu lui dit, mais c'est une vieille maladie qui n'existe plus. Le médecin lui dit, une maladie, hélas, ne disparaissent jamais. Je vais être obligé de prévenir les autorités, la préfecture, l'hygiène, mettre en quarantaine le village. Alexis lui dit, nous ne sommes pas d'ici et on doit rentrer à Paris. Le médecin lui dit, vous ne pouvez pas quitter le village tant que l'épidémie n'a pas disparu. Mais tu demandes, et les Perret? Le médecin lui dit, je vais aller les voir. Ont-ils pris les médicaments? Et il lui dit, non, ils n'ont pas voulu. Ils ont pris du bicarbonate et du réglisse. Le médecin lui dit, ils sont complètement fous. Mathieu lui dit, ils n'ont pas encore pris la terre du Martin. Le médecin lui dit, je vais aller les voir. Et il lui dit, et nous? Le médecin lui dit, il faudra se rester ici. Je vous aiderai. Et tu lui dis, quelle poisse! Je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Le médecin examine les Perret et redescend voir les garçons. Il leur dit, ils ont bien la contagieux. Je vais vous examiner. Allons dans votre chambre. Et ils y vont. Les médecins les examinent. Pour le moment, vous n'êtes pas contaminé. Mais faites très attention. Et pour l'eau, ne prenez que de l'eau bouillie. Pour les légumes et les fruits, faites-les cuire. Ne mangez rien de cru. Et ne touchez rien. Faites attention à ce que vous faites. Et s'il lui dit, mais si nous restons ici, nous allons prendre la maladie. Mathieu lui dit, surtout avec le pot de chambre. Mais sans réfléchir, il lui dit, je ne peux pas vous faire sortir du village. Mais comme vous êtes en quarantaine, et puis il y a les Perret qu'il faut s'occuper. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, vous allez venir chez ma mère et moi je passerai pour voir les Perret dans la journée. Ils sont malades, on ne peut pas faire autrement, ni plus pour eux. Moi, j'irai les voir. Je m'occuperai d'eux. Et puis voilà. Faites vos bagages. Moi, je vais les prévenir et nous partons. Faites vos bagages. Moi, je vais les prévenir et nous partons. Et sort de la chambre. Les deux garçons font leurs bagages. Et Ils sortent de la chambre. Ils vont sonner à la porte de la chambre des Perret. Entrez, dit le médecin. Ils entrent. Ils vont près du lit. Alexis dit, nous sommes venus, c'est vous dire au revoir et merci. Je lui dis, vous partez alors. Nous reviendrons, je demande. Et qui va s'occuper de moi? Le médecin lui dit, moi. Et vous n'aurez pas que du bicarbonate. Je lui dis, vous allez nous empoisonner avec vos médicaments et faire des expériences sur nous. Le médecin lui dit, mais non, absolument pas. Allez. À ce soir, je vais mener les deux jeunes gens chez ma mère. Je lui dis, oui, les parisiens ont toujours du succès. Il cligne de l'œil, il dit à sa femme. Il lui en faut deux. Le médecin hausse ses épaules et il sort de la pièce. Et de la maison. Dans la voiture et ils partent. Le médecin sonne à la porte de sa maison. Elle s'ouvre. C'est sa mère. Il lui dit, je vous amène deux jeunes gens. Elle dit, entrez. Le médecin lui dit, ils vont vivre ici en attendant la fin de la quarantaine. Il dit, mais ma maison peut être transformée en hôpital. Il lui dit, non, mère, c'est juste pour eux. Et puis ils n'ont rien. Elle lui fait, tu en es sûr? Il lui dit, je les ai examinés. Il dit, bon, puisqu'il faut aider son prochain, je le ferai de mon mieux. Jeunes gens, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre chambre. Il dit à son fils, je donne la chambre d'ami, qui est celle de ta tante. Il lui dit, c'est très bien, mère. Et je vous remercie. Venez me suivre. Et les deux garçons suivent la femme qui les mène à l'étage. La maison sent la lavande et la cire. Ils le remarquent après les odeurs des Perret. Arrivés au deuxième étage, petit couloir, sol en parquet, mur blanc, il y a des portes peintes en vert. Elle ouvre une porte, ils entrent. La pièce est grande, propre, il y a la tapisserie beige clair avec des petites fleurs bleues et rouges. Les meubles sont en chêne foncé, un lit à une place, une armoire de porte, une petite table de nuit, une petite table et une chaise empaillée. Il dit, un de vous peut prendre cette pièce. Mathieu dit, Alexis dit, elle est très bien, je vous remercie madame. Je suis très satisfait. Il pose sa valise sur la table. Puis, ils sortent de la chambre. Je vais vous montrer la deuxième chambre. est à côté de l'autre, presque semblable. Le bois des meubles peut être plus clair, la tapisserie bleue. Puis, elle montre la salle de bain et les WC. Elle leur dit, je vais vous laisser, vous mettre chez vous. Je suis en bas, au salon. Et elle les laisse. Ce temps, le médecin va à la maison qui est la petite mairie de 2 étages en face de l'église. Il est simplement marqué sur la façade mairie. Il entre, hall d'accueil avec une femme à la banque. C'est une femme un peu forte, à cheveux gris, lunettes et robe à fleurs à dominance blanche avec des fleurs rouges. Elle demande, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Elle lui dit, j'aimerais parler au maire, c'est très important. Elle dit, je vais voir. Elle prend son téléphone et fait un numéro. Allô? C'est l'accueil. Il y a le docteur qui aimerait vous parler. C'est très important. Bon. Elle raccroche et lui dit. Allez à son bureau. Il vous attend. Merci madame. Le médecin va monter les escaliers jusqu'au premier étage. Au premier, il frappe à la porte du bureau du maire. Entrez. Il entre. C'est un bureau, une grande pièce, avec un bureau qui est une table. Il y a sur la cheminée des piles de dossiers. Une armoire ouverte qui déborde. Le maire est un homme à cheveux gris dans les 60 ans. Tête ronde, joviale, chemise blanche et pantalon noir. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour docteur.
Le docteur s'approche. Le maire lui dit,
je vous écoute.
Le médecin lui dit, je suis obligé, c'est de mettre en quarantaine le village. Le maire le regarde bien et lui dit,
vous êtes complètement fou, notre village est sain. La preuve, il y a à la pharmacie une bouteille d'eau qui n'a jamais été vendue depuis 1953. Ce qui fait que depuis 70 ans, notre air est pur et bon.
Il dit, ça ne veut rien dire. On ne peut pas avoir de maladie pendant 70 ans et en avoir une après. Mère lui demande,
et d'où elle vient cette maladie?
Je ne sais pas, peut-être qu'on le saura plus tard. Il faut d'abord, c'est éviter qu'elle se propage ailleurs. Et pour cela, il faut mettre en quarantaine le village. La préfecture a été prévenue. Mais à réfléchir, il se dit que si la préfecture est prévenue, il faut qu'il fasse quelque chose, autrement il sera très mal vu. Il dit au médecin,
bon, puisqu'il faut, nous allons prévenir les gens.
Le garde champêtre va annoncer la nouvelle. Le curé va sonner le clopin. Et vous, vous allez mettre des panneaux pour dire aux gens de ne pas quitter la commune. Bien. Et moi, je mettrai des affichettes pour conseiller aux gens de ne pas boire de l'eau sans la faire bouillir, de ne pas manger des légumes et des fruits sans les faire cuire. Bien se laver les mains, même beaucoup. Éviter les étrangers, rester de préférence chez soi, faire le moins de mouvements possible. et lorsqu'on ne se sent pas bien, prévenir les médecins ou le service d'hygiène. C'est ce qui se fait. Le maire dit au garde champêtre d'annoncer la nouvelle. Au curé de sonner le clopin. Et on dit aux gens de ne pas sortir de la commune. Les gens sont surpris car la commune n'a jamais été contaminée. Le médecin a fait faire des affichettes à l'imprimeur de la mairie qu'il a payé et il a fait distribuer. La préfecture envoie les gendarmes. Les infirmières, les médecins, commandants de guerre. On met des toiles de tente. Devant l'entrée du village. Les ambulances entendent. On a amené aussi des camions de chaux-vives avec des pelles. Pour le moment, il n'y a que 20 corps de choléra. Le médecin passe sa journée à aller les voir. Lorsque la population apprend ça, elle panique. Elle ne croit pas avoir la maladie. Elle demande au médecin à être économe. Les médecins sont très pris. Parce que il y a de plus en plus de gens qui veulent être examinés. Malgré qu'ils disent officiellement qu'ils n'ont pas peur de l'épidémie. À la pharmacie, beaucoup de tisane, bicarbonate, réglisse et terre sont prises d'assaut. Le service sanitaire du ministère amène les médicaments, les vrais. Lorsque la pharmacienne les voit arriver, elle se dit qu'il faut que les gens prennent des vrais médicaments. Elle leur conseille de prendre des piqûres comprimées plutôt que de la tisane. Alors, vous aussi, vous voulez profiter de la misère du monde pour vous enrichir? La préfecture s'aperçoit que d'autres villages sont aussi touchés. Et sûr, la maladie ne connaît pas les limites des villages, les frontières. Alors, la préfecture décide de mettre en quarantaine tout le territoire. Mais malheureusement, ce territoire à lui. Ça s'arrête à son territoire. Mais la maladie, elle, non. Elle continue. Et des cas de maladie se trouvent un peu partout sur le territoire de la France profonde et en Europe. Bien sûr, c'est un cas par-ci, un cas par-là. Mais ça démontre que la maladie se propage. Se propage facilement à cause du manque d'hygiène. L'eau est de moins en moins potable.
qu'on l'assainit de moins en moins. À cause du manque d'argent. Les déchets, qui dans les villes ne sont ramassés qu'une fois par mois, créent de la pourriture, attirent les bêtes, les insectes et les microbes, les bactéries, les maladies donc. Les décharges municipales débordent sous le soleil dans les rues. On trouve aussi de plus en plus de cadavres, de bêtes, d'êtres humains morts au cours d'une bagarre. Et ces cadavres sont retrouvés des fois sur la chaussée. Collecte, car les chiens, les rats, les oiseaux, ils ont déchiqueté. Le sang mauvais s'est déversé sur le sol et le sol est dans les rigoles qui va dans les égouts et les égouts dans les fleuves qui est contaminé. Qui va au robinet. Et puis dans les fleuves, des fois, on trouve des cadavres humains, d'animaux. Le détritus de toutes sortes, les excréments qui s'y déversent, tout ça crée des maladies, des microbes, des bactéries, etc. qui pullulent. Il y a de plus en plus aussi de logements abandonnés, presque en ruine, dans des rues étroites, sales. Et ces immeubles sont squattés par des familles pauvres. Elles vivent sans électricité, ni eau, rien. Vivent dans la poussière. Le grabat. Pour leurs besoins naturels, ils vont dans une pièce abandonnée et ils font à même le sol. Ce qui fait que les excréments s'entassent avec les insectes, mouches, microbes, etc. Une personne qui a une maladie, elle la donne par ses excréments. L'air diffuse l'odeur et la maladie. Certains jettent leurs excréments dans la cour. Et comme ils sont plusieurs à le faire, la cour devient vrai bourbier d'excréments et de maladies. Les excréments et leurs maladies polluent la terre. Elle y entre et cette terre polluée reçoit l'eau de pluie qui fait circuler les excréments qui sont dans la terre. Avec leurs microbes maladies. En contaminant l'eau potable et les gens, etc. Ce qui crée des contagions qui créent, elles, des cadavres que l'on met dans la rue, qui polluent le sol et l'air. Ce qui fait que c'est sans fin. Les oiseaux qui ont bu avec leur bec et mangé des choses polluées sortent des villes pour aller à la campagne avec leur bec rempli de microbes et de maladies. Et avec leur bec, ils amènent les contagions à la campagne. Ils becquent un fruit. Le fruit a la contagion. Reste à terre, pourri, l'eau tombe. Contaminé par le fruit et l'eau, c'est la source, etc., etc. Le manque d'hygiène est terrible. Et même la moindre petite chose qui semble insignifiante, comme celle de cracher par terre, peut avoir des effets catastrophiques. Ben, elle expliquait ça à des jeunes cons qui ont appris à cracher à cause de certains cons qui, pour eux, ça fait partie de leur culture de le faire. C'est vital et normal de cracher. Le pays et l'Europe est bien contaminé. Et en plus, il fait chaleur peu ordinaire. Il fait très chaud et lourd. Il n'y a pas d'air. Un ciel bas et gris. Des deux garçons inquiets leur écrit pour avoir des nouvelles. Ils disent qu'à Paris il y a de nombreux morts et que la ville fait des choses efficaces et qu'elle déverse de la chaux-vive dans des quartiers entiers. Elsie et Mathieu leur disent qu'ils vont en bien, qu'ils sont en bonne santé. Les jours passent, le nombre de malades augmente. Ils ont même créé un centre sanitaire à la préfecture. Le médecin dit aux garçons de rester à la maison et de ne pas bouger. Mathieu et Letty commencent à s'ennuyer, enfermés dans cette maison. Dehors, des camions sanitaires sillonnent le village. Le clopin tous les jours. Un soir, en rentrant de sa journée, le médecin leur dit « Les Perret sont morts cet après-midi. Alexis est triste. Il veut aller à leur enterrement. » Le lendemain, tout se fait rapidement pour l'enterrement. On met le corps sur un chariot, on l'amène au cimetière, on le met dans un trou avec de la chaux-vive. Les jours passent, les gens deviennent maigris, ils disent que la maladie continue à se propager et que tout ça c'est la faute du médecin. Parce qu'il a mis les gens en quarantaine. Ils disent que s'ils pouvaient s'en aller, ils ne seraient pas malades. Les gens décident, c'est de quitter le coin. des armées de fusils, de chasse.
Dépêchons-nous, ils sont...
Des voitures font ces barrages, ce qui crée une bagarre. Se crée des bagarres entre les l'autorité et les paysans. Paysans mettent le feu au service sanitaire où se trouvent les malades. Ils vident les camions. Et déversent plutôt. La maladie, la gendarmerie, l'armée lutte contre eux, contre des paysans. Les paysans d'autres visages les aident, ce qui crée une grande bataille. Sous la chaleur. Et les gens sont sous-alimentés des deux côtés. La lutte va jusqu'au village. Les barrages sont incendiés. Des morts presque dans le village. Les gens se trouvent encerclés, sont sur la place du village, près de la maison du docteur, qui se trouve enfermé dedans, avec sa mère et nos deux amis. Ne peuvent bouger. Paysan, gros, chauve, crie, c'est la faute au docteur, allons mettre le feu à la maison. Et l'on fonce sur la maison, il saute le mur, avec des torches, des haches. Le médecin et deux garçons paniquent, reculent au fond de la maison. La porte est défoncée à coups de hache. Une horde de sauvages entre dans la maison. Ils cassent tout ce qu'ils voient. Ils font des razzias.
Bonjour.
On crie, où est le médecin? Qu'on lui fasse sa peau. Ça court de partout, dans tous les coins. Le médecin et les siens sont paniqués. Il dit, il faut fuir, vite. Ils sentent que les émeutiers s'approchent. Le médecin ouvre la fenêtre. Sautez ! Ils sautent tous. Ils se trouvent dans l'arrière de la maison. Ils vont vers la porte, une petite porte qui va dans les champs. Il ouvre et dit, allez-y ! La mère et deux enfants sortent. Ils se sentent sortis que les émeutiers leur courent après. Ils se mettent à courir à travers champs, en se dirigeant instinctivement vers un bois. Les émeutiers leur courent après et leur tire dessus. Il y a de plus en plus de gens. Alexis court à côté de la mer. Tout d'un coup, il la voit tomber en avant, se penche. Le médecin court, regarde et dit, elle a été touchée, on ne peut pas la laisser comme ça, vous filez. Et ici lui dit, mais ils vont vous tuer. Le médecin lui dit, je dois rester près de ma mère qui est blessée. Il faut que je l'aide. Je ne peux pas laisser ma mère comme ça. Il faut que je la transporte. Elle perd trop de sang. Il voit les autres s'approcher et dit, vous filez, autrement ils vous tueront. Vous êtes des étrangers, c'est de votre faute. C'est vous qui avez porté la maladie. Allez, filez. Les deux garçons se mettent à courir, laissent le médecin penché près de sa mère. Sa mère qui doit être certainement mourante. Se mettent à courir, à courir. Ils arrivent dans les bois. Ils courent, ils courent. Dans un pré. Ils courent, ils courent. bout d'un moment, il s'arrête, épuisé. Il s'arrête et s'allonge dans l'herbe, au pied d'un arbre. Plus personne ne les poursuit. On les a abandonnés. Se sont éloignés du village et les villageois les ont abandonné de les poursuivre. C'est le principal. Ils ont le souffle court, soif, faim, chaud, très chaud. Toujours ce ciel de plomb. Mathieu demande, qu'allons-nous faire ? Alexis lui dit, je ne sais pas. Et, épuisé, il s'endorme. Sommeil de plomb, sans rêve. Il se réveille, il fait nuit et tout aussi chaud. Alexis se dit qu'il a l'impression d'être fixé à la terre, qu'il ne peut bouger. Mathieu demande, que faisons-nous ? Et il dit, rentrer à Paris, voir où nous sommes et rentrer à Paris. Mathieu lui dit, on ferait peut-être mieux, c'est de marcher la nuit, comme ça on risquera, c'est de voir moins de monde. Et s'il lui dit, tu as raison. Il se lève péniblement et se met en marche. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.